Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand trop de mauvaises nouvelles nous rendent insensibles, un texte d'Isabelle Haché, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. J'étais fière de ma ruse journalistique. Je croyais avoir trouvé la solution pour m'éviter le déferlement de courriels furieux que provoque tout reportage sur le conflit au Proche-Orient. Lorsque mon journal m'avait demandé un dossier pour marquer l'anniversaire du 7 octobre, j'avais eu cette idée toute simple, parler des humains. Pas du Hamas, ni de Benjamin Netanyahou, pas de chiffres étourdissants, ni d'analyses géopolitiques savantes, juste des humains. J'avais choisi de raconter le drame poignant de trois mères qui ont perdu leurs enfants en Israël et à Gaza. Mon plan a fonctionné. Trop bien. Je veux dire, ce reportage-là n'a suscité aucune réaction, ni outrée, ni émue, ni rien. J'ai dû recevoir une douzaine de messages, tout au plus. J'espérais rallier les lecteurs autour de tragédies humaines et universelles. J'ai plutôt récolté leur complète indifférence, du moins si je me fie à ma boîte de courriel. Comment expliquer cette torpeur collective? Notre société aurait-elle perdu son humanité? Serait-elle devenue insensible aux grands malheurs qui frappent notre monde? Après la pandémie et la guerre en Ukraine, choisirait-elle d'ignorer une énième catastrophe? Souffrons-nous collectivement de fatigue, de compassion? Le phénomène existe bel et bien. Jusqu'ici, il a été utilisé pour décrire l'état des soignants qui deviennent subitement insensibles à la douleur de leurs patients. Des experts commencent à se demander si le concept pourrait s'appliquer à l'ensemble de la population, plus que jamais exposée à de mauvaises nouvelles et à des images traumatisantes, relève la docteure Pascale Brion, psychologue et professeure au département de psychologie de l'UQAM, où elle dirige le laboratoire de recherche Trauma et résilience. Il y a des images qui marquent, parce qu'elles touchent droit au cœur. La fillette vietnamienne brûlée au napalm en 1972, le corps du petit Alan Kurdi, échoué sur une plage turque en 2015, des enfants ensanglantés tirés des décombres de Gaza l'an dernier, puis d'autres enfants ensanglantés ou émaciés ou démembrés, toujours à Gaza, et d'autres encore et encore. Au bout d'un certain temps, tragiquement, beaucoup de lecteurs finissent par détourner le regard. D'où ce paradoxe. Plus les photos en provenance de Gaza sont insoutenables, leurs auteurs espérant sans doute, par la violence de leurs images, réveiller le reste du monde, plus le reste du monde semble plongé dans un profond sommeil. Ce n'est pas nécessairement un signe d'indifférence. Au contraire, pour plusieurs, ce serait plutôt celui d'un excès de compassion. Chez les personnes très empathiques, les neurones miroirs s'activent, explique Pascale Brion. Les niveaux de cortisol et d'adrénaline augmentent, provoquant de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'insomnie et de l'épuisement émotionnel. Autrement dit, si certaines personnes prennent leur distance, c'est par instinct de survie. À cela s'ajoute un sentiment d'impuissance qui joue pour beaucoup dans la fatigue de compassion, explique Pascale Brion. À force de se dire qu'on ne peut rien y faire, on se désensibilise inévitablement. En février 2022, l'invasion russe en Ukraine a ébranlé la planète. Cette agression militaire au cœur de l'Europe était une aberration qu'il ne fallait laisser passer sous aucun prétexte. À l'antenne, un correspondant de guerre américain avait tenté d'expliquer que l'Ukraine n'était pas un de ces pays comme l'Irak ou l'Afghanistan où un conflit fait rage depuis des décennies. Non, l'Ukraine était un pays relativement civilisé où on ne s'attendait pas à de tels débordements. Ces propos avaient, disons, mal passé. Reste que le journaliste qui les avait tenus avait maladroitement mis le doigt sur une douloureuse vérité. Le monde a l'habitude de voir souffrir certains peuples, beaucoup plus que d'autres. Il s'attend à ce que le malheur s'abatte sur Gaza, moins sur l'Ukraine. Mais ça, évidemment, c'était vrai en février 2022. Depuis, l'Ukraine n'a pas échappé à la banalisation de la violence. Le sort de ces réfugiés n'arrache plus le cœur, du moins plus autant qu'avant. La guerre là-bas n'est plus une aberration. C'est la nouvelle normalité dont on suit les derniers développements d'un œil distrait dans la section du Monde en bref. Vous écoutez, quand trop de mauvaises nouvelles nous rendent insensibles, un texte d'Isabelle Haché paru le 20 octobre 2024 dans la presse. C'est chaque fois la même chose. D'abord, nous sommes horrifiés. Ensuite, nous perdons peu à peu notre capacité à ressentir le choc et l'indignation, écrivait la professeure de journalisme Suzanne Müller dans son livre « Compassion fatigue » en 1999. Il était question dans son ouvrage des camps de la mort en Bosnie et du génocide au Rwanda. D'autres atrocités, une autre époque, la même banalisation de l'innommable. Le phénomène n'a rien de nouveau. En 2000, Pierre Foglia écrivait dans la presse « Si je devais faire écho à tous les malheurs qu'on me raconte, cette chronique deviendrait, dans un premier temps, une vallée de larmes. Puis, il n'y a rien qui se banalise plus vite que le malheur, une sorte de catalogue des chagrins qui ferait fuir le lecteur aussi sûrement qu'un éditorial sur la réforme municipale. » Je me souviens aussi d'une bande dessinée de Gottlieb, d'abord publiée dans le magazine Pilote au début des années 1970. Chaque jour, dans un Biafro-Galistan, en guerre, des centaines d'enfants mouraient de faim. Au début, les commentateurs en discutaient gravement, la larme à l'œil. Au journal, le chef de pupitre y consacrait 5 colonnes à la une. Et puis, de case en case, les manchettes prenaient moins d'importance. Les gens s'habituaient. Une vedette du rock'n'roll enregistrait une chanson de soutien. Ça faisait danser les foules. Sur scène, un humoriste osait une blague. Quelle différence y a-t-il entre un petit biafro-galistanais et un prisonnier qui s'évade? Aucune, car tous les deux crèvent la dalle. À la fin, le chef de pupitre cherchait à caser l'histoire parmi les faits divers. Le phénomène n'a rien de nouveau, donc, mais il a pris de l'ampleur depuis l'avènement des téléphones intelligents et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut consulter des nouvelles anxiogènes en les faisant défiler à l'infini sur un appareil mobile. C'est ce qu'on appelle le « doom scrolling » ou « défilement morbide ». Selon certaines études, cette consommation compulsive d'infos catastrophes peut mener à la dépression, au stress, à l'anxiété et, finalement, à la désensibilisation. Plus un utilisateur s'expose à des images crues, non filtrées par les médias traditionnels, plus il risque de souffrir de fatigue de compassion. Cela dit, pour contrer cette fatigue collective, les médias traditionnels eux-mêmes devraient diffuser davantage de bonnes nouvelles, estime Pascal Brion. Ça enverrait le message que le monde n'est pas aussi laid et petit qu'on ne le croit. La psychologue a sûrement raison. La presse cherche d'ailleurs à produire de plus en plus de reportages constructifs dans ses écrans. Reste qu'il m'apparaît difficile pour un média comme le nôtre de ne pas faire la manchette avec un embrasement au Proche-Orient ou un incendie criminel meurtrier dans le vieux Montréal. Un journal ne peut cesser de couvrir les grands bouleversements qui secouent l'actualité pour préserver la santé mentale de ses lecteurs. Heureusement, ces derniers peuvent continuer à s'informer tout en se prémunissant contre la fatigue de compassion. Pascal Brion propose, ci-contre, trois façons de consommer les nouvelles sans être consumé par les nouvelles. Comment lutter contre la fatigue de compassion? Sélectionnez des sources d'informations fiables. Faites attention aux réseaux sociaux, prévient Pascal Brion, psychologue et professeur au département de psychologie de l'UQAM. Demandez-vous si vous consultez un média qui vérifie ses sources, possède une éthique journalistique, fait attention aux titres et aux images et propose une réflexion critique permettant une meilleure compréhension des phénomènes. C'est une chose de savoir combien il y a eu de morts à Gaza aujourd'hui. C'est encore plus important de comprendre les forces en présence, comment on en est arrivé là et comment faire en sorte que ça n'arrive plus. La force d'un média de qualité, c'est de permettre une réflexion critique beaucoup moins anxiogène que la photo d'un enfant décapité. Établissez des moments de déconnexion numérique. Programmez une minuterie, suggère la psychologue. Limitez votre lecture des nouvelles, par exemple, à 20 minutes. Si vous voulez garder votre capacité d'empathie intacte, vous devez éviter de faire du doom scrolling, faire défiler compulsivement les nouvelles morbides sur votre appareil mobile. Limitez votre exposition. Fixez-vous des créneaux précis et prenez des pauses. D'autres experts suggèrent également de désactiver les notifications sur votre téléphone. En prime, votre sommeil en sera moins perturbé. L'idée, c'est de demeurer un citoyen informé, mais pas au point d'être complètement perturbé par ce qui se passe dans le monde. Engagez-vous dans des actions concrètes. Donnez 5 $ par mois à la Croix-Rouge, par exemple, ou à Médecins sans frontières, propose Pascal Brion. En vous engageant dans une action concrète, vous aurez l'impression de contribuer à améliorer le monde. On s'entend. À lui seul, votre bon geste ne réglera pas le sort du Proche-Orient. Mais passer à l'action contribuera à réduire le sentiment d'impuissance associé à la fatigue de compassion. Ça vous aidera, vous. Et ça aidera aussi à améliorer le monde, un peu pour vrai. C'était « Quand trop de mauvaises nouvelles nous rendent insensibles », un texte d'Isabelle Haché, paru le 20 octobre 2024 dans La Presse.
Plaidoyer pour une étiquette mettant en valeur les produits réparables et durables. Un texte de Clémence Pavic, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. Votre téléphone cellulaire a-t-il une longue durée de vie utile? Votre réfrigérateur est-il facilement réparable? Pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé, l'organisme Équiterre demande l'instauration d'un indice de durabilité des produits, ce qui permettrait non seulement de lutter contre le gaspillage, mais aussi d'épargner de l'argent. En moyenne, un bruit d'un appareil électronique ou électroménager arrive 2,6 années après son acquisition, note Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre. Mais lorsque le dit bruit survient, seulement un Canadien sur cinq se tourne vers la réparation, ajoute-t-elle. Afin de remédier à cette situation, Équiterre dévoile un rapport dans lequel l'organisme préconise la mise en place d'un indice de durabilité. Il faut que les gens aient accès à de l'information leur permettant de savoir si leurs achats sont des investissements fiables, estime Mme Côté. À quoi pourrait ressembler un tel indice? Il pourrait prendre la forme d'une étiquette sur laquelle figurerait une note sur 10, ou de A à E, évaluant le degré de durabilité du produit, illustré Kitter dans son rapport. La note du produit pourrait aussi être associée à un code de couleur pour permettre au client de repérer l'information plus rapidement et plus facilement. Pour la méthode de calcul, Équiterre donne en exemple le cas de la France, qui a mis en place un indice de réparabilité depuis 2021. À compter de 2025, l'Hexagone instaurera d'ailleurs un indice de durabilité qui supplantera progressivement le premier, en visant d'abord les téléviseurs et les machines à laver. Ce dernier sera déterminé selon deux grands critères. La durabilité du produit, peut-on facilement le démonter, changer ses pièces et à quel prix? Et sa fiabilité, résiste-t-il bien à l'usure? Un autre critère sera pris en compte plus tard quand d'autres types de produits, tels que les téléphones et les ordinateurs, seront soumis à l'indice « la capacité d'amélioration du produit ». Peut-on faire des mises à jour logicielles? Comme en France, on voit que l'implantation de l'indice pourrait être graduelle et viser d'abord certaines catégories de produits ici aussi, illustre Madame Côté. Au-delà de la méthode de calcul en elle-même, Équiterre fait valoir que l'indice doit être géré par un organisme indépendant. C'est vraiment important de confier la notation et la mise en place à un organisme indépendant pour s'assurer de la crédibilité de l'indice, ajoute Mme Côté. Les consommateurs favorables à l'idée. L'experte relève par ailleurs qu'une forte part des consommateurs se montre favorable à la mise en place d'un tel indice de durabilité. Selon un sondage mené cette année par Équiterre et Recyc Québec, près des trois quarts, 72% des Canadiens, mentionnaient que cet indice influencerait leur décision d'achat. Dans le temps de nos grands-parents, les objets pouvaient durer des décennies. Avec les avancées technologiques, ça n'a pas de sens qu'on ne soit pas en mesure de produire un bien durable aujourd'hui, fait valoir Mme Côté. C'est bon pour l'environnement dans un contexte de raréfaction des ressources. C'est bon pour le portefeuille des gens. Et c'est bon pour notre économie locale, les entreprises du milieu de la réparation. Ce milieu a d'ailleurs perdu des plumes ces dernières années. Selon un autre rapport d'Équiterre, on constate une diminution considérable du nombre de personnes travaillant dans le secteur. Au Québec, entre 2003 et 2023, le nombre de personnes travaillant dans ce domaine est passé d'environ 7400 à 4300, soit une chute de plus de 40%. Au Canada, leur nombre est passé d'un peu plus de 26800 à 19300 sur la même période, soit une baisse d'environ 30%. C'était Plaidoyer pour une étiquette mettant en valeur les produits réparables et durables, un texte de Clémence Pavic, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
L'armée, à l'heure des aides, un texte d'Isabelle Bérubé, paru le 19 octobre 2024 dans La Presse. L'image des recrues qui se font crier après en faisant des push-ups dans la boue, est difficile à changer. Pourtant, depuis que les forces armées canadiennes ont entrepris un virage vers la modernité en 2021, cet employeur n'a rien à envier aux entreprises les plus innovantes. Leadership à la mode. À l'heure où les entreprises se demandent comment gérer les milléniaux et les Z, reconnus pour bousculer les organisations avec leurs exigences, les forces armées canadiennes, FAC, ont adapté leur leadership pour refléter la société actuelle, explique en entrevue avec La Presse Martin Rousseau, major au bureau du directeur, planification du personnel militaire et de la coordination des programmes. Les membres issus de la diversité, sont intégrés dans les réunions stratégiques et les cours de leadership, incluent maintenant les concepts d'intelligence émotionnelle et d'intelligence organisationnelle, précise-t-il. Si la série « Les armes » à TVA ne fait rien pour défaire les clichés des leaders intimidateurs et tortionnaires, il s'agit d'une fiction créée pour divertir l'auditoire, rassure sa consoeur André-Anne Poulain de la Défense nationale. Les leaders des forces usent de leur autorité de façon à accomplir la mission de la défense avec professionnalisme, dit-elle. Transparence des tests. Dans mon temps, le test d'aptitude était très obscur. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, raconte le major Martin Rousseau. Mais la génération des milléniaux et des Z demande plus de transparence. Ils veulent savoir ce qu'ils auront à passer comme test. Un changement a été fait, tout comme pour le test des capacités physiques qui avait lieu à l'arrivée des recrues. Les moins sportifs avaient peu de chances de le réussir et les forces perdaient des gens de talent, affirme le major Martin Rousseau. Les recrues ont dorénavant un programme d'entraînement de 8 semaines adapté à leurs conditions afin de se préparer physiquement et mentalement. La formation est aussi optimisée afin que les recrues puissent intégrer rapidement l'une des 104 fonctions de l'organisation et travailler. Jupe pour tous. En écoutant notre nouvelle génération, nos divers groupes et les grands vents de changement dans la société canadienne, on a fait un grand changement en ce qui concerne la tenue, explique le major Martin Rousseau, qui occupait jusqu'à récemment la fonction d'adjudant-chef du commandement du personnel militaire. On a enlevé le genre dans l'uniforme. La jupe est associée aux personnes de genre féminin dans la société. Mais nous avons enlevé le genre. Même chose pour le manteau, qui auparavant avait une coupe pour les femmes et une coupe pour les hommes. Depuis 2022, les hommes peuvent choisir la jupe et les femmes le veston autrefois destiné aux hommes. Adieu, look rasé. Les membres des forces peuvent dorénavant s'exprimer comme ils le souhaitent avec leurs cheveux et leurs poils. Favoris, barbe, moustache, bouc, tout est permis. Aucune restriction non plus pour la longueur des cheveux. En 2024, une mise à jour a été apportée et les cheveux qui dépassent le bord inférieur du col de chemise doivent être attachés de façon à dégager le visage, explique la major Karina Smith, sous-ministre adjointe aux affaires publiques du ministère de la Défense nationale. Autrefois, on n'avait pas le droit à la barbe du tout, à moins d'être un marin ou d'avoir une occupation spécifique, rappelle le major Martin Rousseau. Maintenant, tout le monde peut la porter et on a enlevé la barrière des styles pourvu que ça soit propre et bien tenu jusqu'à 1 pouce de densité. Tatouage au visage. Plus besoin de faire une demande pour porter une deuxième bague au doigt. Leur nombre est maintenant illimité, tout comme celui des boucles d'oreilles. Les forces se démarquent en allant jusqu'à permettre les tatouages au visage. C'est une très grande déviation de notre standard, précise le major Martin Rousseau. Les tatouages doivent toutefois refléter une image positive, non misogyne, et respecter le cadre de la législation canadienne. Plusieurs dirigeants d'entreprises au Canada m'ont appelé pour me demander comment on a fait tous ces changements, raconte-t-il. Ça prend beaucoup de leadership, de réflexion et d'humilité. Le major Martin Rousseau souligne aussi que les forces mettent l'accent sur les qualités des membres et sur leur travail au-delà de leur apparence. Les services que ces personnes-là vous donnent sont plus importants que leur tenue. Congés et environnement adapté. Les services de santé des Forces canadiennes, SSFC, ont installé des espaces privés pour les militaires qui souhaitent tirer leur lait ou allaiter pendant leur service. Un nouveau programme rembourse les uniformes de maternité et d'allaitement. Des tampons sont offerts à la fois dans les toilettes des femmes et des hommes. De nouveaux types de congés pour raisons familiales permettent aux militaires de prendre un congé en cas d'interruption de grossesse, d'adoption annulée et de violence familiale. Il y a aussi des congés pour des raisons religieuses et un soutien accru pour les personnes ayant été victimes d'inconduites sexuelles. L'épreuve du terrain. On n'a pas encore essayé ces troupes-là au combat, explique un militaire de haut rang qui n'a pas l'autorisation de parler à la presse. Est-ce que toute cette sensibilité envers les nouveaux venus se traduira en efficacité lors d'un conflit grave? S'interroge-t-il. En cas d'urgence, les ordres doivent être donnés de façon claire, précise, sans ambiguïté. Quand la vie en dépend, c'est le temps d'agir et non de contester, affirme-t-il, en rappelant que tous les membres des forces signent un engagement en entrant dans l'organisation. On ne remet jamais en question la mission jusqu'au péril de sa vie. On ne peut pas dire « moi, cette mission me tente moins », dit-il, en étant accommodant surtout, en tenant compte de toutes les sensibilités sociales. Est-ce que sur le terrain, les jeunes seront forts, voudront se dépasser et aller au-delà de leurs limites pour accomplir quelque chose de plus grand qu'eux? Le mot de Louis Vachon, directeur invité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où le Canada doit réinvestir dans ses forces armées. Le talent est la ressource principale des forces armées. Oui, l'équipement est important, mais le talent passe en priorité. Étant donné les risques géopolitiques et l'urgence climatique, il faut réinvestir. Ça prend davantage de monde. Comment fait-on pour recruter les gens? Comment fait-on pour les retenir? C'était « L'armée à l'heure des aides », un texte d'Isabelle Bérubé, paru le 19 octobre 2024 dans la presse.